Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Pas mécontent de vous retrouver pour Culture Média au menu. Un menu riche, média et culture au sens large. Tous les médias, toutes les formes de culture. Par exemple, on va parler des humoristes du monde et de la cuisine locavore. Notre info média avec l'avocat pénaliste Éric Dupont-Moretti qui rejoindra Europe 1 à la rentrée pour un billet quotidien intitulé Coup de cœur, coup de griffe. Sa première interview radio, c'est dans quelques minutes, juste après le journal des médias. Nos invités ensuite, le bouillant Philippe Etchebest, chef doublement étoilé. M6 lui consacre une soirée spéciale avec un numéro inédit de Cauchemar en cuisine, suivi d'un documentaire avec des images là encore inédites. Il nous parlera également de son coup de gueule en faveur des restaurateurs lâchés en race campagne pendant le confinement et sa conférence avec Emmanuel Macron. Enfin, la lunaire, que dis-je, la stratosphérique Ariel Dombal pour son nouvel album Empire, et il y aura en prime son portrait inattendu. Déjà qu'avec elle, on ne s'attend à rien, là, ça promet. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Bonjour Céline Dacosta.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous.
Et bonjour Cyril Lacarrière.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à toutes, bonjour à tous.
C'est votre journal des médias maintenant. Qu'avez-vous au sommaire ce matin, Cyril?
La première grève de l'histoire de BFM, les femmes expertes oubliées de la crise du coronavirus, une symphonie pour la vie et un cœur de sang et d'or.
Mais on commence évidemment par les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir à la télé?
France 3 est en tête hier soir. Près de 3 800 000 personnes étaient devant la série Crime Parfait. C'est un peu mieux que le dernier épisode du Seigneur des Anneaux. Un peu plus de 3 et demi de personnes étaient devant TF1 pour regarder le retour du roi. Enfin, M6 est le troisième de la soirée. Plus de 2 300 000 personnes ont regardé La France a un incroyable talent. Un lancement moyen pour ce premier épisode. Toujours question audience. Score très bof, clairement, pour les Molières. À peine plus d'un million de téléspectateurs sur France 2. C'est vraiment pas beaucoup. En revanche, un succès à signaler pour TMC. Un an chez les vieux, le doc quotidien dont vous avez parlé lundi, a rassemblé 900 000 téléspectateurs.
Culture Média.
Et on démarre ce journal des médias avec la première grève de l'histoire du groupe Next Radio TV.
Il faudra peut-être y voir un signe de maturité. Alors je vous rappelle de quoi il s'agit. Next Radio TV, ce sont toutes les chaînes siglées BFM, les chaînes RMC et la radio RMC. Toutes ces antennes sont menacées par un important plan de départ. Il doit concerner entre 330 et 380 emplois sur les 1600 salariés du groupe. Comme je vous l'annonçais lundi, une assemblée générale s'est tenue hier et les salariés ont décidé de faire grève. Une grève qui a commencé ce matin très tôt et à laquelle Jean-Jacques Bourdin a décidé de prendre part, enfin à moitié. Il n'a pas fait la matinale de RMC, mais il était bien présent à l'antenne pour BFM pour son interview politique. Nous avons joint Malika Carbouche, élue CFDT de l'intersyndicale qui regroupe toutes les antennes du groupe. À ses yeux, ce qui pose problème au-delà même du plan social, c'est la méthode de la direction générale. La déléguée syndicale pointe surtout du doigt Arthur Dreyfus, devenu directeur général des activités médias en début d'année, et à la manœuvre sur toutes les réorganisations d'Altice.
C'est Arthur Dreyfus qui a pris le contrôle du pôle média, donc il a été nommé en janvier 2020, en remplacement de son prédécesseur qui était Damien Bernet. Et aujourd'hui, que la personne soit propulsée au rang de directeur général, c'est pas du tout le propos. Mais aujourd'hui, on est face à une direction générale qui est incarnée aussi par cette volonté d'aller à la force et au conflit. Nous, on ne demande qu'à discuter, mais on est très inquiet par la tournure que prennent les événements. Et aujourd'hui, on a eu un rassemblement massif de l'ensemble de ses collaborateurs. Je crois qu'aujourd'hui, ce message, Arthur Dreyfus doit l'entendre et doit le comprendre. Il doit là comprendre que la méthode n'est pas bonne. Et encore une fois, les salariés ne peuvent pas accepter un plan dans un groupe qui gagne de l'argent. Car aujourd'hui, on se retrouve aussi en phase de dialogue qui ne tiennent pas la route. Les arguments sont là, les faits sont là, on n'est que factuel, nous ne regardons que les chiffres. Et les chiffres, c'est mathématique, ça parle de eux-mêmes. Donc, quelle est cette stratégie derrière? Pourquoi jouer cette force-là? Aujourd'hui, il faut entendre, il faut écouter.
La déléguée SFDT en appelle donc à Arthur Dreyfus, à qui j'ai proposé de venir réagir ce matin. Le directeur général en charge des médias d'Altice n'a pas voulu prendre la parole immédiatement, mais m'a promis de venir à ce micro dans quelques jours.
Merci pour l'invitation.
Voilà, ce qu'on ne sait pas, en tout cas, au moment où on se parle, c'est si le débat pour la mairie de Paris entre Anne Hidalgo, Rachida Dati et Agnès Buzyn, qui doit se dérouler ce soir en direct sur BFM TV, pourra se tenir.
Deux rapports publiés hier soir soulignent la faible représentation des femmes expertes à la télévision lors de la crise du coronavirus. coronavirus.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'INA ont effectivement groupé leurs efforts pour mettre en lumière, au fond, ce qu'on sait déjà depuis longtemps. Les femmes sont sous-représentées sur les plateaux de télé. Selon l'INA, elles sont notamment moins visibles lorsqu'il faut incarner des positions d'autorité. Par exemple, quand il faut interroger un médecin ou un chef de service, c'est, dans 32% des cas, un homme qui apparaîtra à l'écran contre 27% pour une femme. En revanche, dès qu'il s'agit de métiers comme aide-soignant ou infirmière, les femmes sont 4 fois plus représentées que les hommes.
Voilà, et puis on notera la disparition volontaire des écrans de celle qui était la plus demandée, qui était Agnès Buzyn, l'ancienne ministre de la Santé. C'est pas faute d'avoir été invitée par toutes les radios et toutes les chaînes de télé. Mais Cyril, si cette situation est problématique, elle n'est pas propre à la séquence du coronavirus non plus.
C'est effectivement ce que révèle l'étude cette fois du CSA. La sous-représentation des femmes lors de cette période spécifique est identique à ce qui avait déjà été constaté sur l'ensemble de l'année dernière. Pour autant, là encore, sur la place des expertes, et en l'occurrence, des expertes, les chaînes de télé ont laissé très peu de place aux femmes lors de la crise du coronavirus. Alors que, comme le CSA, la place des experts sur le plateau n'a cessé d'augmenter au fil des années, elle s'est effondrée lors de la crise du coronavirus. Lors de cette séquence, elles n'ont représenté que 20% des personnes invitées. Pour vous rendre ça plus clair, quand il y a 10 experts sur un plateau de télé, 8 sont des hommes et seulement 2 sont des femmes.
France 3 nous propose ce soir une symphonie pour la vie.
Et cette symphonie pour la vie, c'est justement le titre de cette grande soirée de musique classique enregistrée la semaine dernière au Théâtre du Châtelet à Paris. Une soirée caritative dont les bénéfices seront reversés à la Fondation des Hôpitaux de Paris et Hôpitaux de France. Évidemment, ce concert s'est enregistré en respectant les mesures sanitaires, donc sans public ou presque, puisqu'il y avait quelques invités, notamment la première dame Brigitte Macron et le dessinateur Plantu qui croque la soirée. Le dessinateur du Monde s'est également chargé de la couverture du disque Symphonie pour la vie. Louise Bernard a rencontré Nathalie Dessay, qui fait partie des artistes invités à se produire. Elle nous raconte comment elle a vécu cette expérience et comment c'était de jouer dos au théâtre.
C'est peut-être pas la même adrénaline, probablement. C'est un peu bizarre, quoi, d'être face au fond de la scène avec le théâtre derrière nous, tout vide. C'est très très beau d'ailleurs. C'est un exercice de télévision, donc on sait qu'on enregistre, que ça passera plus tard. Mais oui, c'est bizarre. C'est bizarre pour nous de penser qu'on ne va pas retrouver le public avant un grand moment.
Forcément, ce genre d'organisation n'est pas sans conséquences, notamment financières. Le producteur Yanis Chebi nous détaille ce surcoût.
C'est un surcoût entre 20 et 30% d'une production classique normale, puisque effectivement, une émission qui peut tourner, ou en tout cas, ou qui se préparait en 3-4 jours en plateau, peut aujourd'hui prendre 2 jours, 3 jours de plus. La coactivité n'est plus possible, c'est-à-dire quand on installe, je prends l'exemple d'un plateau en plein air, il n'est plus possible aujourd'hui d'avoir des corps de métiers différents en coactivité pour préparer l'installation technique, de la lumière, du son, de la régie vidéo, enfin, etc., etc.
Symphonie pour la vie, c'est ce soir sur France 3 à partir de 21h. Un beau concert pour une belle bonne œuvre.
Et puis Cyril, vous teniez à nous signaler une nouvelle série documentaire. C'est à partir de ce soir sur la chaîne L'Équipe.
Vivez en immersion une saison pas comme les autres.
On va avoir besoin de tout le monde. Des derniers d'entrée de jeu.
Attends, on va être concentré sur le bouton pour jouer à la lutte.
C'est un public qui donne vraiment tout.
Victoire. Coup de gueule.
Soit tu me files une réponse là, soit sinon Mounir est dans le vestiaire demain matin.
Défaite. Stress. Drame.
Le Racing a perdu un des siens.
Et délivrance.
Lance de sang et d'or, c'est le titre de cette toute nouvelle série documentaire qui commence ce soir sur la chaîne L'Équipe, une série en 4 épisodes diffusée en 2 soirées, ce soir donc et demain, qui nous plonge dans les coulisses de la dernière saison de l'équipe lensoise. C'est une première en France. Le producteur François Pesanti nous raconte pourquoi il ne s'agit pas simplement, vous allez le voir, d'un documentaire de sport.
Le type de traitement que propose la série Lance de sang et d'or s'adresse à un public beaucoup plus large que celui des supporters du RC Lens ou que celui des supporters de foot plus généralement. D'abord, pour parler des supporters de foot, je pense que tous, où qu'ils soient, se retrouveront dans ce documentaire, seront intéressés parce que ce documentaire raconte l'histoire d'une saison en 2019-2020 dans le football français, avec des coulisses qui intéressent tout le monde en matière de transfert, sur ce qui se passe dans les vestiaires, dans les causeries. Et au-delà de ça, l'enjeu, en effet, est d'essayer d'aller chercher un public plus large encore pour lui expliquer à quel point le football est important. Et je pense que ce type d'écriture peut permettre à tout le monde de réaliser pourquoi le football est important, notamment à Lens, parce que c'est un creuset social, c'est quelque chose qui catalyse la culture, la fierté locale. À Lens, il n'y a plus de mine ouverte aujourd'hui, mais c'est à Bollard dans le football, qu'on continue à célébrer les mineurs de père en fils. Voilà l'importance que peut avoir le RC Lens et voilà plus généralement pourquoi le football est un enjeu important dans notre pays.
Alors je vous le disais, ce genre de série documentaire sportive n'existait pas encore en France, mais c'est un genre qui commence à se faire un nom et grâce à Netflix notamment, la plateforme américaine a innové avec une série sur le club anglais de Sunderland. Elle a également parlé de la formidable série sur la Formule 1 et bien sûr The Last Dance sur les Chicago Bulls de Michael Jordan. J'ai demandé à François Pesenti ce qui caractérisait ces nouveaux docs de sport.
Oui, il y a clairement une attente aujourd'hui de la part des fans parce que ce type d'écriture et de narration sont totalement complémentaires du direct. Le direct sportif a pris énormément d'importance et on voit d'ailleurs le manque dans lequel sont les fans et les amateurs de sport actuellement. Et finalement, le corollaire de cette montée en puissance du direct, c'est l'envie de connaître les coulisses, de mieux connaître les personnages. Et parallèlement, pour le monde du sport et ses ayants droit, il y a un intérêt à mettre en avant les personnages, à humaniser leur sport pour essayer d'élargir la base de fans et peut-être pouvoir s'adresser à des publics nouveaux, plus jeunes, plus larges que ceux qui sont actuellement déjà impliqués dans la pratique sportive.
Que vous aimiez le foot ou pas, ou même que vous ayez le mauvais goût d'être supporter du PSG ou le bon goût de supporter l'OM, jetez un œil.
Ouais,
c'est quoi
ce que ça veut dire?
Le sang et d'or.
C'est chez lui, lui.
C'est vrai, ça, ici, c'est Paris.
Ça va, comment ça, ici, c'est Paris?
Ici, c'est Saint-Etienne.
Lens, en tout cas, est remonté en Ligue 1, ce qui promet une saison 2 de qualité.
Merci beaucoup Cyril Lacarrière, on vous retrouve demain pour un nouveau journal des médias.
À suivre l'info média du jour avec notre invité, l'avocat Éric Dupond-Moretti qui fera partie de l'équipe de la matinale d'Europe 1 à la rentrée. On en parle avec lui dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Et c'est l'heure, Philippe, de l'info média du jour.
Et c'est un petit coup de tonnerre dans le monde médiatique, mais rien à voir avec le mercato interchaîne, c'est mieux que ça. Éric Dupond-Moretti rejoint Europe 1 à partir de septembre. Le célèbre avocat pénaliste sera à l'antenne tous les matins à 7h50 dans la matinale de Mathieu Béliard pour une carte blanche intitulée pour l'instant « Coup de griffe, coup de cœur ». Bondel. Éric Dupond-Moretti.
Bonjour Monsieur Philippe Vandel.
Bonjour maître, bonjour chers collègues désormais. Merci d'être avec nous ce matin en direct. Je dois dire que j'ai appris l'info dimanche dans le JDD. J'étais pas dans le secret du transfert. Et le propre d'une négociation réussie est qu'il y ait le moins de personnes possible au courant. Donc première question, qui a appelé l'autre? Est-ce que c'est Europe 1 qui est venu vous chercher ou est-ce que c'est vous qui avez fait passer le message que vous auriez bien aimé faire de la radio?
C'est Europe 1 qui m'a fait cette proposition,
ouais,
que j'ai acceptée assez rapidement.
Vous dites n'avoir pas hésité. Qu'est-ce qui vous a séduit dans la proposition?
On m'offre une carte blanche de totale liberté, scellée dans notre contrat d'ailleurs.
C'est-à-dire, il est écrit que vous êtes libre de parole?
Oui. Donc c'est assez rare pour qu'on puisse le souligner. Et quand on est un amoureux de la liberté et qu'on vous offre cela, vous ne pouvez pas refuser.
Alors un mot de radio, le format ce sera quoi? Combien de minutes? Combien de temps ça va durer à l'antenne?
J'en sais rien, 2 minutes 30 je crois,
ouais.
Mais on va faire un certain nombre de galops d'essai pour, ouais, essayer de contenir une pensée dans cet espace qui est assez réduit, et en même temps c'est très long, 2 minutes 30.
Ouais, et j'ai lu que vous étiez déjà exercé,
oui,
sur le format, et alors?
Mais d'abord j'ai lu un texte en chronométrant le temps que ça prenait pour que je me rende compte au fond, combien de pages peuvent correspondre à 2 minutes 30,
ouais.
Puis ensuite, j'ai écrit 2 ou 3 choses. Et puis, j'ai essayé de m'aligner sur ces contingences qui me sont imparties. On ne peut pas déborder.
Hein. Non.
Et on va essayer de finaliser tout ça. On va faire quelques galops d'essai.
Alors, vous êtes avocat pénaliste, je l'ai dit. Votre chronique va s'intituler « Coup de cœur, coup de griffe ». Je l'ai dit également. Mais vous n'allez donc pas être simplement dans la position du défenseur, mais qui dit « coup de griffe ». Vous serez également dans la position de l'attaquant.
Je vais dire un certain nombre de choses sur notre époque qui finit par m'exaspérer. Donc, où je vivais ça de façon intrabiliaire et puis j'étais de mauvaise humeur...
Ouais.
Où je lâche les chevaux et je dis ce que je pense de sujets qui me préoccupent beaucoup.
Dans le JDD, vous dénoncez la moraline, qui est un terme créé par Nietzsche, le philosophe. C'est quoi la moraline? Quelle différence avec la morale?
Oh, la moraline, c'est l'ambiance au fond. C'est une époque hyper moralisatrice dans laquelle on est contraint en permanence au manichéisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut être pour ou contre. C'est le bien contre le mal, pour ou contre. Et sur cette palette de couleurs, il reste le blanc et le noir. Et c'est comme ça, par exemple, que se développent dans notre merveilleux pays les communautarismes. C'est comme ça que la guerre des sexes prend toute son importance. C'est comme ça que les uns veulent imposer aux autres leur mode de pensée et que les uns deviennent au fond les censeurs des autres.
Ouais.
Et moi j'en ai un peu marre de ça, et je veux le dire puisqu'on m'offre la possibilité de le dire.
Je sais que vous aimez la citer Léo Ferré qui dit... La citation, je vous la laisse dire, la citation de Ferré sur la morale...
Ce qui est emmerdant avec la morale, c'est que c'est toujours la morale des autres. C'est assez juste, non ?
Exactement. Alors, quel sera vos champs d'intérêt ? Vous n'allez pas rester, vous n'allez pas vous rester tanqué dans le domaine de la justice, pas du tout.
Ah non, 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 mais le champ du possible est infini, vous savez. Mmh. Il y a deux ou trois sujets judiciaires, bien sûr, qui m'intéressent. Je veux faire partager un certain nombre de choses... oui, ce sont des coups de cœur et des coups de griffe. Mais au fond, vous voyez, moi, je ne me conçois pas comme un gourou. Je veux faire réfléchir. Je préfère que nous débattions plutôt que nous nous battions.
Ouais.
Et je trouve qu'on se bat beaucoup dans cette époque, qui est une époque d'intolérance absolue, où toutes les frustrations s'expriment. Il y aura des choses sur les réseaux sociaux, il y aura des portraits, il y aura des coups de cœur, il y aura des coups de patte. D'ailleurs, pardon, mais vous n'êtes pas informé totalement... Le titre n'est pas encore arrêté, le titre de l'émission.
C'est celui que j'avais lu dans le JDD, donc c'est un titre de travail.
C'est un titre de travail, oui.
Voilà, comme disait mon prof de philo, restons vagues pour être précis. Ce qui est intéressant avec vous, vraiment, c'est qu'on ne sait absolument pas comment vous vous situez, de quel bord vous parlez. Quand on regarde vos prises de position, vous avez parfois des ennemis aussi bien à droite qu'à gauche, des soutiens également aussi bien chez les extrêmes qu'au centre et inversement réciproquement. Parfois vous allez contre le vent, parfois vous allez dans le sens du vent. Il n'y a pas de stratégie, c'est en fonction de votre humeur et de votre réflexion.
Bon, des alliés chez les extrêmes, je ne pense pas en avoir beaucoup.
Il y a des gens qui vont être d'accord, on peut avoir, on peut susciter de l'adhésion malgré soi.
J'entends bien, mais sur des idées, ouais. Naturellement. Mais là, je pensais que vous parliez de la personne.
Non.
Je recueille peu l'adhésion des extrêmes. Qu'il s'agisse de l'extrême gauche ou de l'extrême droite.
Ouais.
Non, moi, je pense que le bon sens est une vertu cardinale. Et que très souvent, on perd la tête. On s'embarque sous la dictature de l'émotion, de la passion, tout ça relayé par des réseaux sociaux que j'exècre, qui pourraient être les outils magnifiques d'une démocratie participative et qui sont en réalité aujourd'hui devenus une poubelle à ciel ouvert.
À cause de l'anonymat ?
Ah, notamment à cause de l'anonymat, bien sûr. Vous pouvez raconter n'importe quelle connerie à compter du moment où votre signature ne vous engage pas, puisqu'il n'y a pas de signature.
Dans le JDD, vous avez cité deux exemples, pardon de le citer, mais comme c'est la seule interview que vous avez donnée à ce sujet, un qui a beaucoup séduit les bobos, vous reprochez au ministère de la Justice d'avoir facilité le maintien des personnes en détention provisoire pendant le Covid-19, et un autre sujet qui a ulcéré les bobos, la défense du cinéma de Roman Polanski. Et donc, je me suis dit, tiens, là où Dupond-Moretti est vraiment intéressant, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il va nous dire, et on ne sait pas ce qu'on va avoir. Et il y a une phrase qui dit « L'idéologie, c'est quand la réponse précède la question. On n'est pas dans l'idéologie avec vous. »
Bon, je ne sais pas si les bobos ont approuvé lorsque j'ai critiqué les décisions du ministère de la Justice qui permettaient à un homme d'être maintenu en détention sans être présenté à des juges.
Cas de force majeure, on vous dira.
Depuis 1793, loi dite des suspects, on n'avait jamais vu ça. Et on est allé très loin, puisque... Un tribunal correctionnel, celui de Marseille, pour le citer, a condamné un homme à 3 ans de prison ferme sans qu'il soit présenté devant le dit tribunal, sans que l'on puisse organiser de visioconférence et sans qu'il soit défendu. C'est-à-dire que sans entendre le son de la voix d'un homme, on lui a collé 3 ans. Donc je ne sais pas si les bobos ont approuvé, mais moi j'ai détesté. Et le second sujet ?
Polanski.
Polanski... celle qui le dénonce, Madame Haenel, n'est-ce pas ?
Adèle Haenel.
Oui. Raconte que son auteur préféré est Céline. Elle fait donc le distinguo entre l'auteur et l'œuvre. On ne peut pas faire la même chose pour Polanski ?
On reste sur cette question. Vous restez avec nous, Éric Dupond-Moretti.
Oui, Éric Dupond-Moretti qui est notre invité. Il sera chroniqueur sur Europe 1 la saison prochaine dans la matinale de Mathieu Béliard. On continue à en parler avec lui dans un instant sur Europe 1.
Europe 1, Culture Média, Philippe Bondel.
Éric Dupond-Moretti est l'invité de Culture Média ce matin. À la rentrée, vous serez collègue, Philippe, ouais. Puisqu'il sera sur Europe 1 chaque matin à 7h50 pour s'exprimer sur les sujets d'actualité du moment.
Et on parlait de la moraline, terme créé par Nietzsche, espèce de petite morale, matinée de bon sens, matinée de certitude d'être dans le camp du bien et matinée de doxa. Vous n'êtes pas dans le politiquement correct. Par exemple, vous aimez le bon vin, mais vous allez plus loin. J'ai retrouvé un portrait de vous dans les Un Rock qui date de 2014. Peut-être vous avez changé d'avis. Vous dites « Le vin révèle les êtres. Il faudrait recommander de boire avec excès plutôt qu'avec modération. » Je me dis « Tiens, il va loin. »
In vino veritas, non ?
Ouais.
D'ailleurs, je me souviens de cette interview avec le type des Un Rock. On était un peu chaud et on a eu du mal à faire ce portrait. Et finalement, on a davantage parlé de Léo Ferré que de tout le reste. Et c'était un très, très beau portrait.
Dans lequel on apprend notamment que vous êtes adepte de la chasse, et moi je ne savais pas, avec un chien et un faucon.
Oui.
Il fait quoi le faucon ?
Le faucon, il vole au-dessus de moi, et puis le chien d'arrêt repère le gibier. Et je viens d'entendre récemment Mme Bardot dire que tous les chasseurs étaient des salopards. Et M. Nagui dire que c'était des alcooliques. Alors alcoolique, moi j'accepte volontiers. Salopard, je ne sais pas, ça se discute. Voilà l'exemple de manichéisme dont je parlais. Le blanc ou le mal. Et les bobos, puisque c'était votre baromètre tout à l'heure, la ruralité, ils la négligent. Ils nous imposent un certain nombre de choses. Et c'est vrai dans tous les domaines. D'ailleurs, hein, c'est vrai dans le domaine de la vie privée. C'est même vrai dans le domaine alimentaire. Il y a les mangeurs de quinoa, ouais. Les mangeurs de viande. Vous prenez l'avion, on vous emmerde parce que ça fait tant de grammes de carbone. Enfin, on ne peut plus rien faire. Et tout est polémique. Et quand je disais tout à l'heure que les uns deviennent les censeurs des autres, ce n'est pas comme ça qu'on fabrique une société. Une société, c'est ce qui nous unit et pas ce qui nous distingue. Et c'est en ça que c'est extrêmement inquiétant. Et il y a naturellement une traduction judiciaire de cela, au quotidien.
Justement, puisqu'on parle de ça, la traduction judiciaire, vous parlez de la société. Dans votre livre Le dictionnaire de ma vie, qui était paru chez Kerou il y a quelques années, vous vous insurgez contre la loi qui pénalise le type qui siffle une fille dans la rue. Je veux dire pourquoi ça m'intéresse, parce que vous mettez cela sur le compte, je vous cite Éric Dupond-Moretti, vous mettez cela sur le compte de l'infantilisation de la société. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Vous savez, il y a une très grande dame, je ne peux pas citer son nom sans son autorisation, mais vous la connaissez, dame d'une grande élégance, d'un certain âge, qui, quand cette loi a été votée, m'a dit « Si vous saviez à quel point je regrette de ne plus être sifflé. » Oui, on nous infantilise pour tout, bien sûr. Qu'il s'agisse du paquet de cigarettes, en passant par l'alcool, que l'on doit boire avec modération. Mais les gens ne sont pas des débiles.
Il y a une petite différence que je vais faire ici. Les cigarettes, on n'est pas obligé de fumer. La fille qui se fait siffler dans la rue, elle n'est peut-être pas très heureuse, elle ne l'a pas choisi.
Mais ça dépend comment les choses sont faites. Tout est une question de circonstances, voyez-vous. Et tout ça finit par dresser les uns contre les autres, une fois encore. Et un certain nombre de femmes contre un certain nombre d'hommes. Tous les hommes ne sont pas des prédateurs. Et les droits de la femme méritent notre attention. Moi, je suis, par exemple, pour qu'à travail égal, les femmes soient payées comme les hommes. Ça, c'est un combat qui me paraît tout à fait légitime. Mais il y a un certain nombre d'autres excès. Dans les excès du féminisme ambiant, vous voyez comment on peut s'emparer d'une rumeur pour en faire une réalité. Je vous rappelle que 100 de mes consoeurs qui se revendiquent du féminisme ont pris la plume dans le journal Le Monde pour dire qu'il ne suffisait pas d'accuser pour que cela devienne une preuve. On n'est plus prudent avec rien aujourd'hui. Voilà, c'est la morale, c'est le moment, c'est l'émotion, l'instantanéité, l'absence de réflexion qui nous guide. Et je trouve que ça fait des dégâts considérables.
Voici notamment ce qu'on va entendre à partir de la rentrée dans la matinale de Mathieu Béliard. Éric Dupond-Moretti, qui est ici à ce micro, sera tous les jours à 7h50. Je ne vais pas revenir sur vos fameux 144 acquittements, votre surnom d'acquittateur. Je vais juste citer un papier de Yahoo France qui titre « Reconversion inattendue ». Vous allez laisser tomber le métier d'avocat ?
Mais ça, c'est ce qu'on appelle dans votre métier un putaclic. C'est-à-dire que le titre fait le buzz. Mais bien sûr que non, je ne vais pas abandonner mon métier d'avocat, c'est mon ADN, je suis consubstantiellement avocat. Mais puisque la liberté ne se met pas dans des cases, par définition, puisque c'est la liberté, on m'offre cette possibilité de dire un certain nombre de choses. J'ai 59 ans, je ne vais pas me gêner, j'ai cette opportunité fantastique, merveilleuse, et je la prends à bras-le-corps.
Comment vous allez faire ? Vous êtes quelqu'un qui travaille beaucoup, qui travaille énormément ses dossiers, et aussi une chronique radio, ça se travaille, j'en sais quelque chose. Comment vous allez vous organiser votre emploi du temps, et notamment quand vous serez en province, par exemple, dans des cours d'assises ici ou là ?
Bah, je crois qu'il y a du matériel technique qui permet
vous serez à distance.
De pallier
voilà.
Ça.
Et pour le travail, vous dormiez déjà peu, si je suis bien informé, vous allez dormir encore moins, comment ça va se passer ?
Non mais vous savez, je suis déjà en train de travailler, la première c'est fin août, donc je travaille les sujets, je vais me faire aider, évidemment, on m'a promis un coup de main quand il s'agit de trouver un texte, une archive, etc. Je ne vais pas faire tout ça moi-même. Et puis ensuite, il y a beaucoup de plaisir là-dedans. Il y a quelque chose d'infiniment ludique. Hein ?
On attend ce plaisir, ça sera tous les jours à l'antenne, en direct, je précise, à 7h50 dans la matinale de Mathieu Béliard. Le titre, on ne le connaît pas, mais l'auteur, on le connaît, c'est Éric Dupond-Moretti. Merci d'avoir été avec nous en direct dans Culture Média.
Merci de m'avoir reçu.
Notre prochain invité est le chef Philippe Etchebest pour parler de la soirée spéciale que lui consacre M6 et où on va découvrir ses recettes préférées. On en parle avec lui dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Bondel.
Et dans Culture Média, Philippe, on accueille Philippe Etchebest.
Bonjour Philippe Etchebest.
Bonjour Philippe.
Cuisinier doublement étoilé, vous êtes l'une des figures du jury Top Chef sur M6. On vous reconnaît, pour qui ne vous aurait pas vu à la radio, à votre crâne rasé et votre physique de rugbyman. Et justement, le rugby, vous en avez fait, mais également de la boxe, de la batterie. Et je n'oublie surtout pas la cuisine. Meilleur ouvrier de France en 2000, puis vos 2 étoiles à Saint-Émilion, puis l'étoile que vous avez obtenue dans votre nouveau restaurant à Bordeaux. Et là, ce soir, M6 vous consacre une soirée spéciale avec un numéro inédit de Cauchemar en cuisine et surtout un documentaire qui raconte votre parcours. Ça s'appelle Philippe Etchebest, le destin d'un chef hors du commun. Comme je sais que vous êtes toujours méfiant quand il s'agit de médias, pourquoi cette fois avoir dit oui à ce documentaire ?
Alors, pour revenir à la genèse du projet, c'était parti au départ sur l'idée de faire un petit document sur la fête de la musique. Mmh. Donc, vous avez compris, ça a légèrement dévié.
Ah bah oui, parce qu'il y a un tout petit peu de musique et beaucoup d'Etchebest quand même.
Oui. Ouais, mais c'est un projet qui date de il y a 3 ans déjà. Ouais.
Plus profondément, chef, je vous pose la question parce que beaucoup de chefs médiatisés disent que leur notoriété leur a parfois porté préjudice au moment d'obtenir des étoiles de la part du guide Michelin, par exemple Cyril Lignac, mais pas seulement. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que parfois vous n'avez pas peur d'être trop exposé ?
Non, enfin je fais attention. Alors c'est vrai que je suis exposé malgré tout, mais ça ne m'empêche pas de faire correctement mon métier. Mon métier principal, c'est la cuisine. C'est ce que j'ai toujours fait. C'est ce que je ferai encore après. Donc voilà, j'essaie de faire en tout cas au mieux tout ce que j'entreprends. Voilà.
Dans ce documentaire, Philippe Etchebest, le destin d'un chef hors du commun, il y a beaucoup de gens qui parlent, dont notamment votre ancien collègue Fabrice Lascaux. Vous l'avez connu quand vous aviez démarré au restaurant étoilé du Méridien, c'était il y a 30 ans, ou pas loin. Et voici le portrait du jeune débutant extrêmement prometteur que vous étiez.
Au travail, c'était le chef. Par contre, quand on sortait, je veux dire, il changeait de costume.
Ladies and gentlemen, Mr. Philippe.
C'est un meneur d'équipe, Philippe. Ça, je pense que les collègues vous le confirmeront, il n'y a pas photo. Et ça, je pense qu'il, pour ça, il est parfait, ce con.
Il est parfait, ce con, c'est lui qui le dit. Est-ce que vous avez validé le montage final ?
Ouais, je l'ai vu. Ah bon. J'ai dit, putain, vous passez ça. Ah, ça, ouais. Ça craint. Mais ouais, non, mais c'est rigolo.
Non, mais il le dit de manière bon, très, très bienveillante et très amicale.
Oui, c'est bienveillant, c'est sûr. Et puis, les messages de sympathie de Fabrice, ouais, notamment. Alors, Fabrice, il faut savoir qu'au départ, il était apprenti. Ouais. Il était apprenti au Chipiron, dans le restaurant de mon père où je travaillais pendant 2 ans et demi. Et je l'ai pris avec moi quand il a eu fini son apprentissage. Je l'ai pris avec moi à Paris, quand je travaillais à Paris. Donc, il m'a suivi un petit peu dans ce parcours. Fabrice, c'est un garçon extraordinaire. Aujourd'hui, il est viticulteur, il est vigneron. Mmh. Mais c'est un garçon extrêmement sympathique et courageux.
Dans le film, il y a vos parents, mais il n'y a ni votre épouse, ni votre fils, un enfant que vous avez adopté au Mexique en 2005. Pour quelle raison ?
Ah, je ne veux pas tout montrer non plus. C'est vrai que je me garde ce petit jardin secret, on va dire. Voilà. J'ai accepté de faire ce documentaire sous une autre forme puisque, comme je vous l'ai dit au départ, ça devait être autour de l'affaire de la musique. Ah oui. Mais voilà, en montrant peut-être des images un peu inédites, même si on sait que j'ai déjà fait de la boxe, que j'ai déjà fait du rugby, que je fais aussi un peu de musique, c'est un moyen de le découvrir en images. Ah oui. On voit un petit peu mes parents. Mais après, c'est vrai que bon, pour ce qui est de mon épouse et mon fils, ça, je garde ça de côté. Je préfère.
Alors, on va voir des sacrés documents ce soir, notamment des vidéos en VHS avec le son un peu pourri, le rouge qui dégueule. On vous voit en cuisine, évidemment, mais aussi autour d'un piano en train de chanter les Beatles et aussi en train de boxer sur un ring en public. Alors que le reste de la semaine, vous étiez second dans un resto étoilé à Toulouse. Question boxe, vous êtes monté jusqu'à quel niveau et dans quelle catégorie, Philippe Etchebest ?
Alors, j'étais en catégorie mi-lourd à l'époque, je faisais 82 kilos, mmh, et j'ai boxé jusqu'au championnat Midi-Pyrénées. J'étais champion Midi-Pyrénées en mi-lourd en 93, et ça a été une expérience incroyable, et j'ai eu la chance de pouvoir le faire quand j'étais au Jardin de l'Opéra avec Dominique Toulouzi. Mmh. Et c'est vrai qu'à un moment, Dominique Toulouzi m'avait dit, bon, Philippe, à mon nez, il faut peut-être que tu choisisses aussi, t'es doué en cuisine, donc voilà, la boxe, c'est bien, mais... Parce que c'est vrai que je lui demandais en plus d'aller boxer hein, le samedi soir, et je demandais à passer en premier dans les galas de boxe pour être disponible après pour le service. Ouais. Alors malgré tout, j'arrivais en cours de service, mais j'avais fait un combat avant. Ouais. Voilà.
Il y a des images impressionnantes de vous sur le ring, et ce qui est impressionnant également, c'est votre emploi du temps de l'époque.
J'aimais ça, j'aimais le contact. C'est tellement intense, c'est tellement fort, c'est tellement puissant. Et j'aime ce rapport de force. Je m'entraînais tous les jours. 5 jours par semaine, j'étais à la salle. Je bossais 6 jours sur 7 à l'époque. 8 heures, j'étais au marché. 9 heures en cuisine. 15 heures, je sortais de la cuisine. 15h30, j'étais à la salle. Jusqu'à 17h30. À 18h, j'étais en cuisine jusqu'à minuit.
M6 vous appelle pour Cauchemar en cuisine. Lors du premier numéro, ce sont vos premiers pas devant la caméra. Vous êtes assez tendu, personne ne vous reconnaît. C'est la productrice Florence Duhaillot qui raconte. Et ensuite, on va vous entendre face à la patronne d'un resto en déroute. La dame travaille avec son fils, mais elle n'ose rien lui dire, contrairement à vous.
La méthode de Philippe Etchebest, c'est quoi? C'est déconstruire pour reconstruire. Donc quand il arrive, il est quand même un peu rude.
Seulement, je veux que ça sorte de votre bouche.
Peut-être que je protège.
J'ai bien compris. Dites-moi vraiment ce que vous pensez du travail de votre fils.
Mais
dites-le-moi,
quand
merde.
Quand il veut, il bosse bien.
Oh, mais il bosse pas. Oh, Annie, allez,
il fait son
arrêtez.
Boulot derrière le comptoir, quand même, avec dans la cuisine.
Mais derrière le bar. Mais s'il reprend la maison, c'est pas derrière le bar que je veux le voir, moi.
Bien sûr, il faut
c'est pas derrière le bar que je veux le voir. Je veux le voir partout, je veux le voir gérer une affaire. Pas rester derrière le bar à attendre que ça passe. Et à se filer 2 verres et faire 3 cafés. C'est pas ça, reprendre une affaire. Vous le faites bien, vous êtes partout, à droite, à gauche.
Bim, c'est carrément un uppercut. Alors j'ai appris en préparant cette interview que les candidats de l'émission Cauchemar en cuisine doivent passer un certificat médical qui atteste qu'ils peuvent passer à la télé. C'est si risqué que ça de faire une émission avec vous, Philippe Etchebest?
Non, c'est vrai quand même que psychologiquement, c'est quand même un peu dur. Je vais pas de main morte, mais ça fait partie aussi de ma stratégie et d'être ouais. efficace parce que j'ai pas beaucoup de temps. Donc il y a quand même un examen médical parce que émotionnellement, c'est quand même assez fort. Mmh. Hein, il faut être prêt à ça. Donc le casting est assez dur quand même. Cahier des charges est très important.
Nous aussi, on est émus, on marque une pause, on se retrouve tout de suite après avec vous, Philippe Etchebest.
Soirée spéciale sur M6 consacrée au chef Philippe Etchebest avec un numéro de Cauchemar en cuisine inédit suivi d'un documentaire qui retrace son parcours. On continue à en parler avec lui dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
21h05 sur M6 ce soir, soirée spéciale consacrée au chef Philippe Etchebest. Il est avec nous pour en parler, Philippe.
J'en arrive à l'émission Top Chef, émission emblématique de cuisine sur M6, émission dans laquelle il y a une épreuve non moins emblématique. Qui peut battre Philippe Etchebest? Par définition, vous êtes le seul à pouvoir la faire, mais Hélène Darroze, membre du jury, avoue que jamais elle n'aurait osé prendre le risque de se faire battre par un inconnu. Pareil pour Michel Sarran, d'autant que vous n'êtes pas armes égales, vous avez moins de temps que les candidats pour réaliser la recette. Pourquoi vous prenez un tel risque, Philippe Etchebest?
Parce que ça m'amuse. Je suis très joueur dans l'âme. Et puis, ça me permet finalement de me confronter aux candidats, mais de leur amener un petit peu une espèce de carotte, voilà, une espèce de motivation supplémentaire pour me battre. Mais voilà, une fois de plus, je suis un compétiteur. Ouais. J'aime ça et puis j'aime m'amuser. J'aime prendre ce risque-là.
Et si vous perdez?
C'est pas grave. C'est pas grave, c'est aucune importance. Je donnerai tout, une fois de plus, c'est de trouver de l'amusement et puis une certaine complicité avec les candidats. Voilà, je me rapproche encore plus d'eux finalement en faisant ça. Et je trouve que j'ai d'autant plus de légitimité à les noter puisque moi aussi je peux le faire.
On va parler d'un autre combat, on va parler du coronavirus. On sort d'une épreuve terrible pour toute la France et spécialement pour les restaurateurs, le confinement. Les restaurants commencent à peine à réouvrir. Dans quel état sont-ils?
Alors c'est mitigé, il y a des restaurants qui fonctionnent et notamment sur les côtes, c'est vrai que les gens avaient envie aujourd'hui de retrouver le chemin des restaurants, mais on va dire que les clients se bousculent pas au portillon non plus, et en plus avec la distanciation physique et tourner à moitié de sa capacité, c'est compliqué parce qu'on n'arrive pas à atteindre son seuil de rentabilité, en tout cas pour beaucoup. Donc c'est pas simple.
Je vous pose la question, Philippe Etchebest, parce que pendant le confinement vous êtes monté au front pour défendre les intérêts des restaurateurs. Je précise que ce soit aussi bien les petits bistrots que les gros 3 étoiles gastronomiques. Vous faisiez cette prophétie il y a 2 semaines. J'ai trouvé ça dans le Midi Libre du 31 mai. Vous disiez 60 à 70% des entreprises ne vont pas rouvrir. Soit elles vont couler, soit elles ne pourront pas s'adapter aux mesures sanitaires. J'espère que vous êtes trompé et que le tableau n'est pas aussi dramatique que ce que vous dites.
Alors 60-70%, je ne pense pas avoir dit ça. J'ai annoncé plutôt 30% de faillite. Ouais. Ça c'est sûr, entre 30 et 40% de faillite d'ici la fin de l'année. Ouais. Ça c'est certain. Mais il y aura de la casse si on ne fait rien aujourd'hui. On s'est battu avec mon groupe de travail justement pour apporter une solution, parce que c'est bien de critiquer, mais il faut être fort justement de solutions derrière. C'est ce que nous avons fait ouais. avec mon groupe de travail. Malheureusement, j'ai envie de dire, on n'a pas trop été entendu. On attend un retour du cabinet de Bruno Le Maire, justement, sur des propositions qui pourraient continuer à aider la profession dans cet accompagnement, parce qu'on sait que la reprise économique, elle va être très compliquée.
Ça va justement être ma question. Vous avez mis en place un groupe, vous avez été remarqué par des ministres avec qui vous avez échangé, Gérald Darmanin, Bruno Le Maire, c'est monté jusqu'au président de la République, Emmanuel Macron, avec qui vous avez fait une conférence de près de 3 heures. Après les belles paroles, que s'est-il passé dans les actes ?
Dans les actes, il y a eu des aides qui ont été apportées par l'État avec des prêts garantis, avec bien sûr le chômage partiel. Mais j'ai envie de dire, les prêts garantis par l'État, il va falloir les rembourser à un moment donné ou à un autre. Et tout ce qui a été repoussé aussi. Donc, il y a une espèce de bulle d'air qui est éphémère, mais qui, dès la rentrée, va avoir des conséquences sur le chiffre d'affaires des entreprises. Parce que avec 3 mois de fermeture pratiquement et 0 chiffre d'affaires et une activité à moitié, ça va être compliqué de pouvoir absorber tous ces coûts, tous ces emprunts qui ont été faits derrière.
Vous étiez aussi très remonté contre les assurances. Est-ce que ça s'est assoupli ? Est-ce qu'ils se sont assouplis ?
Alors, c'est vrai que les assurances n'ont pas vraiment joué le jeu au départ. Il y a eu une table ronde quand même où AXA est venu autour de cette table. Ça a été une main tendue et je les en remercie. Malheureusement, une fois de plus, le cabinet de Bruno Le Maire et à Bercy n'ont pas voulu entendre cette proposition où les assurances étaient prêtes à abonder dans un fonds solidaire. Maintenant, voilà, une fois de plus, on attend le retour avec impatience et on espère qu'ils auront trouvé des solutions meilleures que la nôtre pour pouvoir aider tous les restaurateurs qui, aujourd'hui, sont quand même en grande difficulté. Alors, je parle des restaurateurs, mais il y a les artisans, les commerçants. Hein. Tout ça est un secteur d'activité qui a été très, très touché. Et nous sommes une espèce de locomotive et beaucoup de secteurs dépendent de notre économie aussi. Donc, si nous, on fonctionne mal, les autres iront mal aussi.
Comment vous voyez l'été ? Est-ce que les Français qui vont partir en vacances en France et non plus à l'étranger vont compenser la non-présence des touristes étrangers ?
Alors, je pense en partie certainement. Je pense que les Français, ils ont envie de partir en vacances. Donc, ils iront vers des destinations qu'ils n'ont pas l'habitude de découvrir. Ça, c'est une bonne chose pour la France, en règle générale, et pour le tourisme français. Maintenant, est-ce que ça suffira à combler le manque de touristes en France pendant cette période ? Je ne sais pas, j'en suis pas si sûr en tout cas.
Parfois, vous n'avez pas envie, Philippe Etchebest, de tout envoyer promener, de taper sur tout le monde. Je veux dire pourquoi je vous demande ça. Parce que dans le doc, on voit que vous jouez de la batterie et vous tapez très très fort et vous n'êtes pas ridicule. Ça, c'était pour la fête de la musique l'an passé. C'est quoi votre prochain projet ?
C'était la fête de musique cette année.
Bon, ça c'est pas fait.
C'est mort.
Vous allez ouvrir une deuxième adresse à Bordeaux, c'est ça ?
Oui, j'ai un projet au Chartron, effectivement, qui devrait voir le jour en début d'année prochaine, qui a dû s'arrêter aussi à cause du confinement. Ouais. Mais voilà, j'ai un autre projet, effectivement.
Et en télévision ?
En télévision, écoutez, là pour l'instant, je suis en train de tourner Objectif Top Chef dans la région de Bordeaux, bien sûr. Et pour l'instant, voilà, ça s'arrête là. Et puis il y a le restaurant, il y a la reprise aussi. Donc il y a du boulot, on va dire. Il y a beaucoup de travail.
Vous avez de quoi faire. Merci beaucoup, Philippe Etchebest. Je rappelle, soirée spéciale sur M6 ce soir avec un numéro inédit de Cauchemar en cuisine, suivi d'un documentaire. Philippe Etchebest, le destin d'un chef hors du commun. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1.
Merci.
Culture Média qui continue évidemment avec dans quelques instants le journal de la culture, puis notre invité Ariel Dombal pour son album Empire ou Empire, en duo avec le chanteur et musicien Nicolas Kerr. À l'écoute de ce disque, une question revient, les couples les plus mal assortis seraient-ils destinés à créer les œuvres les plus terrassantes ? Pas impossible. Il y aura son portrait inattendu par Hélène Manarino évidemment, et puis dans les indispensables de la cuisine, que pouvons-nous consommer ou pas pendant l'été ? Marion Sauveur va nous le dire. Et puis de l'humour avec la série Humoriste du Monde sur Netflix, 47 humoristes de 13 régions du globe nous parlent de notre monde en sketch. Ce sera avec Louise Bernard, mais d'abord, le journal de la culture, juste après ça.